face à l'urgence écologique, que doit-on faire ? Déserter ou agir de l'intérieur ?
Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceur d'alerte, dirigeant, militant, syndicaliste, investisseur, on a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins. Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ?» Vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant!
Aujourd'hui, dans notre podcast dédié aux leviers d'action pour transformer l'entreprise et accélérer sa transition écologique et sociale, nous recevons Emery Jacquia et Nicolas Aubert. Emery, en 1995, à 23 ans, vous fondez Matelsom, un site de vente en ligne de literie. En 2009, en tant que PDG, vous relancez Camif à Niort, une entreprise qui existe depuis 1947. Vous pivotez sur du Made in France avec un positionnement à impact. En 2015, Camif devient B Corp, parmi d'ailleurs les 20 premières entreprises françaises à le devenir. Et deux ans plus tard, Camif boycotte le Black Friday et inscrit dans ses statuts sa mission. Fin décembre 2018, vous co-créez la communauté des entreprises à mission que vous présidez. Bien évidemment, Camif, en tant que pionnier, devient société à mission suite à l'adoption de la loi Pacte en 2019. En face de vous, Nicolas Aubert. Nicolas, vous êtes professeur à l'Université d'Aix-Marseille et professeur associé à l'Institut de recherche sur l'actionnariat salarié et le partage des profits de l'Université Rutgers. Vos travaux de recherche portent sur l'actionnariat salarié et l'épargne salariale. Vous êtes co-auteur avec Xavier Hollands de la réforme de l'entreprise, un modèle français de co-détermination. Vous vous intéressez à la représentation des salariés dans les conseils d'administration. Merci à vous deux d'être là. Vous l'avez peut-être deviné à la présentation de nos intervenants. Dans cet épisode, nous allons nous questionner sur la capacité du dirigeant, ici d'une entreprise à mission, à transformer l'entreprise et à la pousser à accélérer l'évolution de ses activités pour réduire, voire réparer son impact environnemental. Nous allons ainsi aussi évoquer la pertinence et les limites de la représentation des salariés dans la gouvernance des entreprises dites engagées. Je suis Martin Verlaine et notre discussion commence maintenant. Emery, en point de départ, pouvez-vous nous raconter un moment emblématique, peut-être dans un rapport de pouvoir, où vous êtes parvenu en tant que PDG à faire bouger votre entreprise face au dérèglement climatique ?
Mon point de bascule, ce qui m'a marqué le plus, c'est lors de notre comité stratégique en 2017, où j'annonce à mes actionnaires qu'on va fermer Camif.fr pour boycotter le Black Friday. Ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique dans ma vie, parce que faire la grève du chiffre d'affaires, ce n'est pas quelque chose de très courant dans une entreprise. Et on touche un peu à un dogme, celui de la croissance, avec une question centrale, c'est à partir du moment où on avait, depuis 2 ans et demi, travaillé sur notre mission et que notre premier objectif de mission, c'est d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable, alors il me semblait évident qu'on ne pouvait à la fois pas faire le Black Friday, mais surtout qu'on devait aller plus loin et qu'on devait être assez radical. Et je crois une forme de radicalité pour faire bouger l'entreprise, pour faire passer notre message sur l'engagement de Camif sur la consommation responsable et montrer qu'on pouvait consommer moins et mieux. Alors, ils ont passé deux heures et demie à essayer de me convaincre que ce n'était pas une bonne idée, qu'il ne fallait pas fermer Camif.fr, qu'on pouvait tout simplement ne pas faire de promotion ce jour-là. Mais je crois que justement, aujourd'hui, pour faire bouger l'entreprise, on a besoin des gens qui osent. Et le courage, probablement, est une des valeurs nécessaires pour faire bouger l'entreprise. Et avec le recul, je peux dire que j'ai bien fait de tenir, même si ça n'a pas été gagné d'avance parce que encore quelques jours avant le Black Friday de 2017, les journalistes nous disaient on ne comprend pas trop pourquoi vous boycottez le Black Friday, c'est quoi le problème du Black Friday. Donc personne n'avait fait le lien entre Black Friday et surconsommation, et donc problème pour la planète. Et ceux qui trouvaient que c'était courageux de notre part de faire ça, s'étaient tous fait retoquer leur sujet par leur comité de rédaction parce que c'était également la meilleure semaine de recettes publicitaires pour les médias. Alors, ça a été quelques sueurs froides de mon côté parce que j'avais réussi à convaincre mes actionnaires, mais il fallait qu'on en parle pour que ça marche. Et heureusement, quelques jours avant, il y a eu quelques journalistes qui ont bougé parce que inondés dans leur propre boîte mail, de newsletters, de tout le commerce traditionnel pour le Black Friday, ils se sont dit, bah, il y a peut-être un problème quand même. Et donc, j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin ce jour-là, le premier vendredi de 2017. Et où j'ai expliqué face à un journaliste qui était assez sceptique, qui pensait qu'on faisait de la com, en fait. Et j'ai dit, oui, on fait de la communication responsable, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à vendre, à part faire passer notre message qu'on peut consommer différemment, qu'on peut consommer moins et mieux, et qu'on doit se poser davantage de questions avant d'acheter un produit dont on n'a peut-être pas besoin. Il faut savoir d'où il vient, comment il est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales, est-ce qu'on en a vraiment besoin. Parce que voilà, on a touché du doigt les limites de notre modèle et qu'il faut réinventer notre façon de consommer. Et voilà, donc c'était mon point de bascule à moi très fort. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'avec le recul, pour avoir boycotté Black Friday chaque année depuis 2017, l'année dernière, 1500 sites e-commerce ont boycotté le Black Friday. Donc on a eu un impact sur tout l'écosystème. Et puis aujourd'hui, le débat. Et je pense que c'est un des rôles de l'entreprise que de participer au débat de la cité. Et ben, le débat entre la surconsommation d'une part et la consommation responsable d'autre part, il est bien posé et on y a contribué.
Mettre moins de camions sur les routes, faire moins de kilomètres, c'est désormais l'objectif inattendu du patron de Renault Trucks. Depuis un an, il participe à la Convention des entreprises pour le climat. 150 chefs d'entreprise à la tête de 250 000 salariés. Ensemble, ils veulent trouver des solutions, choqués par les formations qu'ils ont suivies sur la crise climatique.
Une claque, une énorme claque.
Une énorme claque. C'est Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, qui le dit. Il est participant à la Convention des entreprises pour le climat avec 149 autres dirigeants d'entreprises, et plus d'ailleurs maintenant. Et il parle de l'urgence et de l'amplitude des défis des dérèglements climatiques. À l'image de ces 150 entreprises qui ont vécu la première Convention des entreprises pour le climat, que veut dire, selon vous, Emery, être une entreprise ou être dirigeant d'une entreprise engagée ?
D'abord, c'est une prise de conscience. C'est ce dont témoignent ces dirigeants. On est tous passés par un moment donné où on a pris une claque. Et donc finalement, ces claques, c'est quoi ? C'est la prise de conscience du lien direct entre nos modes de vie et ce qu'on observe en termes de dérèglement du climat, de la biodiversité, des inégalités croissantes. Et à partir du moment où on fait ce lien, en fait, l'enjeu pour nous qui sommes dirigeants, c'est de nous mettre en action, comme tout le monde, et d'utiliser l'entreprise pour s'engager. Qu'est-ce que c'est une entreprise qui s'engage ? C'est une entreprise qui se met en mouvement pour adresser les grands défis qui sont devant nous, qui sont les défis de l'humanité, qui n'ont jamais été aussi élevés. Et le meilleur remède à l'éco-anxiété, parce qu'on a tous une forme d'anxiété face aux défis qui sont devant nous, du dérèglement du climat, et elle est grandissante d'une année sur l'autre. Il y a d'ailleurs une étude qui montre qu'il y a 2,5 millions d'éco-anxieux en France. Le meilleur remède, c'est l'action, le passage à l'action. Et donc, une entreprise qui s'engage, c'est une entreprise qui passe à l'action, qui va transformer en profondeur ses pratiques, son modèle économique, son offre produit, ses relations avec ses parties prenantes, qui va prendre en considération les enjeux, les grands enjeux de l'humanité, mais aussi les enjeux de son secteur, et qui va être amené à définir et à exprimer la contribution positive que l'entreprise veut avoir pour le monde. Et après, ce n'est pas forcément une entreprise parfaite. L'entreprise n'est jamais parfaite. Nous ne sommes jamais parfaits. On est toujours en chemin. Mais c'est aussi une entreprise qui s'engage à de la transparence, qui a l'humilité de reconnaître qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'elle se met sur un chemin de progrès. Et c'est par la transparence, d'ailleurs, qu'on s'oblige à progresser. Et donc, le cadre idéal de l'engagement, c'est l'entreprise à mission, mais on va y revenir.
Oui, peut-être avant de parler d'entreprise à mission, Nicolas, j'ai envie de me tourner vers vous. Dans l'extrait qu'on a entendu, on évoque la prise de conscience des dirigeants. Quel est le pouvoir réel des dirigeants d'entreprise selon vous ? Ils font face aussi à des conseils d'administration. Ils ont aussi d'autres parties prenantes au sein de leur entreprise, que ce soit les salariés, mais aussi à l'extérieur de leur entreprise. Quel est leur réel pouvoir selon vous au sein de l'entreprise ? Et puis, quelle est leur capacité à faire évoluer ces entreprises ?
Alors, on l'évoquait d'abord, cette notion de prise de conscience qui est première, qui est le point de départ. Ensuite, Évidemment, il faut être convaincu, on l'entendait, convaincu, parce que ça nécessite un engagement personnel, un engagement de conviction, parce que on peut être tout simplement cynique, hein, par rapport à ces enjeux et se dire que ce que ça implique en termes d'engagement et représente un effort trop important et que c'est difficile de pouvoir basculer d'un modèle à un autre. Une fois qu'on a ces premières conditions qui seraient respectées, comme on l'a entendu préalablement, il faut convaincre, disons, les actionnaires, il faut convaincre les parties prenantes, les salariés, il faut convaincre les fournisseurs, enfin, tous ceux qui gravitent autour de l'entreprise, hein. Parce que on a évolué dans notre univers économique, dans un modèle d'entreprise où le dirigeant n'est pas le seul à décider. Il doit aussi rendre des comptes à tous ceux qui dépendent de ses décisions et à tous ceux qui contrôlent ses décisions. Et donc, le changement et la prise de conscience n'est pas l'unique étape à franchir. On l'a vu dans des événements qui se sont produits en France, des entreprises qui ont souhaité s'engager, les dirigeants qui n'ont pas forcément été suivis. Alors, pour des raisons qui étaient liées aussi à une certaine forme d'opposition à leur engagement, ils n'ont pas su convaincre, mais aussi parce qu'ils n'ont pas toujours su entraîner un collectif. Et si on perçoit l'entreprise comme une communauté humaine, un collectif, on ne peut pas imaginer que le dirigeant soit le seul à devoir être convaincu, à devoir prendre conscience des décisions. Alors cette prise de conscience, elle peut être associée à des systèmes de rémunération, des systèmes d'incitation. On le voit, de plus en plus d'entreprises lient la rémunération des dirigeants, mais pas uniquement, à des objectifs de réduction, par exemple, des émissions carbone, d'amélioration de la sécurité au travail, certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui se développent de plus en plus ces dernières années. Ce collectif, il est aussi entraîné par des systèmes d'incitation. Par exemple, l'accord national interprofessionnel qui vient d'être signé sur le partage de la valeur insiste sur la nécessité d'introduire dans les systèmes d'incitation collectif, accord d'intéressement par exemple, des objectifs de transition climatique et de réduction des émissions carbone, par exemple.
Moi, je voulais peut-être prolonger, Emery, pour peut-être expliquer le cadre de la loi Pacte et des entreprises à mission que vous êtes, et puis justement peut-être rebondir sur le propos de Nicolas. Comment est-ce que l'entreprise à mission associe les différentes parties prenantes?
Alors, l'entreprise à mission, c'est vraiment l'entreprise qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif. C'est une mission qui est singulière à l'entreprise, qui donc va être différente d'une entreprise à l'autre et qui va porter sur des enjeux de société, qui peuvent être des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. C'est un cadre qui a été consacré par la loi Pacte en 2019 et pour obtenir la qualité de société à mission, alors il faut respecter un certain nombre de conditions. La première, c'est d'inscrire dans les statuts de l'entreprise, et c'est très important que ce soit dans les statuts parce que ça engage les actionnaires, une mission, c'est-à-dire une raison d'être, donc ce qui est issu d'un processus de réflexion très souvent collaborative sur pourquoi l'entreprise existe, à quoi elle sert et à quoi elle cherche à contribuer, assorti d'objectifs sociaux, environnementaux. Donc ça, c'est pour Cabif la raison d'être. Elle tient en deux phrases, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et on a assorti cette raison d'être en cinq objectifs de mission. Le premier, c'est d'informer et sensibiliser sur la consommation responsable, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est aussi dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion, faire de l'économie circulaire notre standard, etc. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'inscription statutaire qui permet vraiment d'aligner les actionnaires sur le fait que l'entreprise n'est pas là uniquement pour servir leur intérêt propre, mais qu'elle a un rôle, une utilité qui va au-delà et qui sert le bien commun, il y a également un double contrôle de la mission qui est, et c'est une singularité de la loi Pacte en France, de par la gouvernance de la mission qui est reconnue avec la création d'un comité de mission. Donc, une société à mission doit se doter d'un comité de mission qui est souvent ce que l'on observe, puisqu'aujourd'hui, on a franchi la barre des 1000 sociétés à mission en France, utilisées par les entreprises pour intégrer dans la gouvernance de l'entreprise les parties prenantes et les parties constituantes de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés. Et ça permet de donner une reconnaissance, finalement, des parties prenantes dans la gouvernance de l'entreprise. Ça permet aussi de mettre l'entreprise sous tension et de mettre notamment sa mission sous cette protection du comité de mission qui va venir vérifier la qualité de société à mission, rendre public un rapport de mission chaque année qu'elle va publier. Et puis, il y a le contrôle externe avec l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier la qualité de la société à mission tous les 2 à 3 ans selon la taille de l'entreprise. Donc, c'est un modèle qui crée un cadre, qui est un cadre d'engagement pour l'entreprise, qui crée un cadre avec beaucoup de liberté malgré tout, à la fois sur la composition du comité de mission, sur la définition même de la mission de l'entreprise, mais qui est un cadre qui est très stimule, qui stimule beaucoup à la fois l'engagement des collaborateurs, ce qui permet de redonner du sens à l'entreprise, et également un cadre qui stimule l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, parce que quand on tire le fil de sa mission, alors on va aller beaucoup plus loin, on va être invité à revoir son modèle économique, son offre, parfois sa clientèle, parfois même ses métiers. Pour Camif, c'est un changement de métier. On est en train de passer du métier de distributeur à un métier d'éditeur. On développe nos propres collections sur les principes de l'éco-conception de l'économie circulaire. Ça nous a conduit à beaucoup renouveler notre clientèle. Voyez, donc et là, on va sortir un nouveau modèle d'affaires autour de la location, voilà, qui est directement lié à notre engagement sur l'économie circulaire. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est à la fois un levier d'engagement, un levier d'innovation et du coup, un levier de performance qui permet de montrer qu'on peut aujourd'hui, avec l'entreprise, réconcilier l'impact et le profit. Donc aujourd'hui, on voit 1000 sociétés à mission, c'est un développement assez fort. C'est plus de 2 fois, plus du double de l'année dernière. 80% d'entre elles sont des PME, donc c'est un modèle qui est accessible même aux petites et moyennes entreprises, tout secteur confondu, toute taille d'entreprise, ça va de la start-up au très grand groupe, et toute forme juridique aussi d'entreprise, parce qu'on y trouve aussi bien des SARL, des SA, des SAS, des sociétés cotées, des mutuelles, des coopératives. Donc vraiment, c'est un modèle qui interpelle finalement toute organisation aujourd'hui doit se poser cette question: en quoi je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire pour aider à résoudre les grands défis qui sont devant nous. Voilà, c'est ce qu'est l'entreprise à mission. C'est un modèle qui est français, mais qui existe par ailleurs dans d'autres pays, qui a été développé en Italie avec la Società Benefit, et qu'au sein de la communauté des entreprises à mission, qui est l'association d'intérêt général donc, que j'ai cofondée en 2018, on essaie de pousser au niveau européen pour qu'on passe d'un modèle de l'entreprise responsable, basé sur de la RSE, du reporting extra-financier, de la CSRD avec des nouvelles obligations qui vont arriver sur les entreprises, à un modèle d'entreprise contributive.
Merci Emery. On va à présent écouter un deuxième extrait.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, Langue l'écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Un patron de Danone viré en une soirée, incroyable.
Oui, c'est un événement très rare dans la vie des grandes entreprises du CAC 40. En réalité, le patron a aussi des patrons. Ce sont les actionnaires, les propriétaires de l'entreprise, et les représentants de ces propriétaires, ce sont les membres du conseil d'administration. Ce sont eux qui ont, cette nuit, révoqué Emmanuel Faber.
Alors, dans cet extrait, on comprend bien, on parle de cet épisode. En 2021, Emmanuel Faber s'est fait limoger par le conseil d'administration, son conseil d'administration. Alors, on peut citer que Danone était une entreprise à mission, dont un certain nombre d'activités étaient labellisées B Corp. On peut se dire, alors c'est pas forcément lié, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce conseil d'administration, mais qu'il n'a peut-être pas convaincu sur la bonne utilité finalement de faire pivoter son entreprise auprès de ses actionnaires. Alors j'avais envie de vous poser une question, alors, je vais vous laisser réagir tous les deux, mais peut-être Nicolas pour commencer. On l'a vu récemment avec d'autres entreprises, Crédit Mutuel, Maïf, qui elles sont des mutuelles, qui ont décidé de réorienter respectivement 10 et 15% de leurs bénéfices pour la cause environnementale. Eux n'ont pas d'actionnaires, mais des sociétaires. Alors, pour faire le parallèle justement avec l'entreprise Danone, est-ce que les entreprises actionnariales sont destinées à maximiser leurs profits pour augmenter les dividendes des actionnaires ?
Alors, déjà, pour une première réaction très courte à l'intervention qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire qui dit que les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise. Peut-être une petite nuance que les juristes ont faite depuis quelques années maintenant, les actionnaires sont propriétaires de leurs actions. Ensuite, pour répondre à la question de l'actionnaire et de sa visée qui serait nécessairement financière, On a un mouvement ces dernières années qui prend de l'ampleur, mais qui existe depuis assez longtemps. C'est celui de l'investissement socialement responsable. Et il faut dire qu'il a été initié par des actionnaires, par des congrégations religieuses, par des actionnaires qui étaient engagés, qui voulaient promouvoir certains objectifs qui étaient pas forcément toujours cohérents et en lien avec des objectifs purement financiers. Donc, ce mouvement-là, il existe, il se déploie, mais il fait l'objet quand même de critiques assez virulentes ces derniers temps, puisqu'on a carrément des partis politiques qui sont contre ce qu'on appelle l'ESG pour les critères environnement, social et de gouvernance. C'est le cas aux États-Unis notamment, avec certains membres du Parti républicain importants dans ce parti-là qui ont pris fait et cause contre l'investissement socialement responsable. Donc on voit que les actionnaires peuvent orienter l'entreprise en faveur du profit, mais pas uniquement. Et puis, même lorsque on souhaite orienter l'entreprise en faveur d'autres objectifs de performance extra-financière, on peut voir que c'est aussi quelque chose qui est contesté. Donc, c'est pas forcément une évidence que les actionnaires soient les premiers à courir après le profit. Mais c'est pas non plus quelque chose qui est assez systématique dans la vie des affaires. Il faut dire que historiquement, on a quand même une évolution. On est dans un moment de l'histoire peut-être où on passe de la financiarisation à ce qu'on appelle certains appellent la sociétalisation des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises sont de plus en plus soumises et aussi intégrées dans leur environnement et soumises à des exigences sociétales. C'est le cas de leurs salariés, de leurs collaborateurs, c'est le cas des collectivités, c'est le cas de leurs clients, de leurs fournisseurs. Et donc elles sont comme imbriquées dans cet environnement. Elles sortiraient de ce point de vue-là de la financiarisation, phase d'orientation des entreprises vers le profit qui a commencé dans les années 70, certains diraient avec la création des premiers fonds de pension. Mais le profit, la notion de profit, y compris pour des actionnaires, n'a pas toujours été dans l'histoire le principal objectif de l'activité humaine. On pourrait sans doute que la notion de profit, l'objectif de profit, aurait fait sans doute sourire des bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge, ou alors ceux qui ont construit des lignes de chemin de fer au XIXe siècle, ou qui ont entrepris des grands travaux à travers le monde. L'objectif de profit, dans d'autres temps, n'était pas principal et n'était pas premier. Donc, on pourrait très bien imaginer une société dans laquelle il ne soit plus le premier objectif est celui qui détermine toute la vie des entreprises à l'avenir.
Pour prolonger sur cette question, Emery, est-ce qu'on pourrait dire que la constitution de son conseil d'administration, de ses actionnaires, est un élément déterminant pour devenir une entreprise à mission, puis aussi peut-être pour approfondir sur la perception des actionnaires lorsque leur entreprise devient entreprise à mission. Est-ce que le comité à mission ne peut pas non plus faire peur, parce que ça pourrait être une forme de bicaméralisme, comme le nomme Isabelle Ferreras, c'est-à-dire une autre chambre de décision au sein de l'entreprise. Est-ce que c'est d'ailleurs la vertu ou ce qui est recherché à travers ce comité mission?
Absolument. Et donc, ça interroge le partage du pouvoir dans l'entreprise. Et ce que disait Nicolas est intéressant. Les actionnaires, ils sont propriétaires de la société au sens juridique du terme. Mais qui est propriétaire de l'entreprise? Pas les actionnaires. C'est toutes les parties prenantes qui sont propriétaires de l'entreprise. On enlève une des parties prenantes, il n'y a plus d'entreprise. Vous enlevez les salariés, il n'y a plus d'entreprise. Vous enlevez les fournisseurs, les clients, il n'y a plus d'entreprise. Et les actionnaires sont une partie prenante de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est avec la loi Pacte et avec le modèle de la société à mission, on consacre pour la première fois, on reconnaît finalement à travers la création de ce comité de mission, on reconnaît l'existence de l'entreprise juridiquement. Parce que jusqu'alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la société, elle est gouvernée par ses actionnaires. Le conseil d'administration, c'est le représentant des actionnaires. Et j'avoue qu'en France en particulier, les salariés n'ont pas de pouvoir. Hein, voilà, ils ont un pouvoir consulaire. On doit consulter le CSE, mais il n'a pas de pouvoir en fait. Alors que là, avec le comité de mission, on a un contre-pouvoir qui s'établit dans l'entreprise. Et c'est intéressant, c'est d'ailleurs une des choses que l'on observe avec les travaux de la communauté des entreprises à mission. Comment ce contre-pouvoir joue. Et c'est d'ailleurs un des freins qui, pour les grandes entreprises en particulier, est souvent remonté en disant, bah oui, mais là, on va, les actionnaires vont se dessaisir quelque part d'une partie du pouvoir de l'entreprise. Donc, c'est intéressant de voir comment ça va jouer. Ce qui est sûr, c'est que le comité de mission et son rôle, c'est de mettre la mission sous surveillance et de rendre des comptes sur les moyens qui sont mis, sur la sincérité de l'engagement de l'entreprise et d'être quasiment un devoir d'alerte, puisque c'est le rôle du comité de mission, s'il y a des dérives et si l'entreprise ne poursuit pas sa mission. Et donc, elle peut perdre cette qualité de société à mission. Pour revenir juste sur le témoignage audio qu'on a entendu sur le cas Danone, parce qu'il a été très utilisé par les détracteurs de la société à mission au moment où Faber s'est fait débarquer par son conseil d'administration, pour moi, au contraire, il illustre bien la résilience qu'offre la mission, qui, malgré le fait que Emmanuel Faber ait porté le projet de passage en société à mission, même si ça s'inscrivait dans une histoire, hein, le double projet de Danone, il date de Ribou des années 72, je crois. Donc, voilà, c'était assez logique et cohérent, mais enfin, il a quand même fait voter à 99,5% par ses actionnaires en juin 2021 le passage en société à mission. C'est quand même une gageur dans ce côté, c'est pas si simple que ça. Quelques mois après, il se fait débarquer, mais ça n'avait rien à voir avec, évidemment, les raisons du passage de la société à mission. C'est un désalignement assez classique qui arrive dans les grosses boîtes entre le conseil d'administration, son dirigeant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il s'est fait débarquer, en fait, la mission, elle a perduré. On n'a pas dissous la mission, on n'a pas dissous le comité de mission, il existe toujours le comité de mission, et on verra dans 2 ou 3 ou 4 ans quel impact il peut avoir sur les pratiques de Danone, est-ce qu'il a permis à Danone de progresser, d'aller plus vite que s'ils n'avaient pas fait ce chemin de société à mission. Donc pour moi, c'est très intéressant parce que la mission est exactement faite pour ça, c'est fait pour graver dans le marbre les engagements que prend l'entreprise, c'est fait pour pérenniser ces engagements sur le temps long, et c'est fait parfois aussi pour des sociétés familiales, particulièrement dans les entreprises familiales, la mission est un outil de transmission. C'est comment moi, je vais transmettre à la génération d'après. Ça réinscrit l'entreprise sur ce temps long, que je trouve particulièrement intéressant. Après, on aura toujours besoin d'actionnaires pour que l'entreprise investisse, pour qu'elle prenne des risques. Ils ont un rôle évidemment à jouer. L'actionnaire, il a besoin d'avoir un retour sur investissement parce qu'il prend un risque, il faut qu'il y ait un retour d'autre part. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que, et c'est pour ça qu'on voit la finance bouger et que probablement la finance va être un levier d'accélération de la transformation des entreprises. C'est que les investisseurs aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus investir dans des boîtes qui avaient comme seul objectif le profit. Ça nous a conduit dans le mur en 2008. Je pense que Milton Friedman, qui dit que la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de maximiser son profit, c'est mort en 2008. D'ailleurs, les chercheurs qui étaient à l'origine du modèle de la société à mission, les chercheurs du laboratoire de la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines, Blanchet Grestin, Armand Hatchel, ça a été un électrochoc pour eux 2008. Ils se sont dit, en fait, en mettant le profit au-dessus de tout et comme seul et ultime objectif de l'entreprise, on va dans le mur et on détruit même jusqu'à aller détruire la valeur pour l'actionnaire. Donc aujourd'hui, l'actionnaire, il a compris que s'il veut préserver la valeur de son capital, s'il veut faire fructifier son capital, il faut que l'entreprise soit en capacité d'apporter la preuve de son utilité pour la société. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer et qui va vraiment, pour moi, accélérer la transformation des entreprises parce que demain, les entreprises qui ne s'engagent pas, qui ne se mettent pas sur ce chemin de formuler leur mission, de structurer leur démarche, elles trouveront plus d'actionnaires pour financer leurs projets, parce qu'aucun actionnaire n'a envie d'investir dans des actifs échoués. Elles ne trouveront plus de talent pour rejoindre l'entreprise, parce que c'est un levier d'engagement. Pour la marque employeur, c'est très, très fort, c'est très puissant. Et du coup, elles vont péricliter. Donc, on voit bien le lien aujourd'hui qui est fait. Maintenant, ça demande de bouger un peu les lignes, ça demande de réinscrire l'entreprise sur le temps long, ça demande peut-être des actionnaires plus patients. Mais aujourd'hui, ceux qui ne prennent pas le chemin de l'investissement sur le changement de modèle de l'entreprise, sur sa contribution positive au monde, font courir un risque sur l'avenir de l'entreprise. Et donc, ils sont pas responsables au fond. Ils ne jouent pas leur rôle. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, c'est que les dirigeants, il y a assez peu de dirigeants Enfin, beaucoup de dirigeants des grosses boîtes en particulier sont des gestionnaires et donc ils sont un peu à la botte des actionnaires parce qu'ils gèrent les fonds, ils gèrent l'entreprise un peu comme elle a toujours été gérée. Aujourd'hui, on est face à une rupture et il faut des dirigeants entrepreneurs qui ont une vision de temps long, qui assument des choix courageux, des décisions d'investissement qui ne vont pas rendre tout de suite, mais qui vont rendre avec un peu de temps. Et on ne parle pas non plus d'un temps extrêmement long, mais assurer que des actionnaires puissent financer une transformation du modèle d'entreprise sur 5 ans, ça ne paraît pas le bout du monde. Et c'est le temps dont on a besoin pour changer un modèle.
Au début de votre propos, vous évoquiez le partage du pouvoir, notamment entre investisseurs en capitaux, dont on vient de parler, mais aussi avec les investisseurs en travail, c'est-à-dire les salariés. Nicolas, quelle place en France des salariés dans la gouvernance des entreprises ? Est-ce qu'on peut avoir un petit panorama, puis peut-être aussi une comparaison avec ce qui se passe peut-être dans d'autres pays ?
Alors, en France, le sujet a été aussi relancé par la loi Pacte qu'on a évoqué juste avant et qui est toujours peut-être d'actualité pour une mise à jour peut-être cette année. On entend que ce serait en discussion. La représentation des salariés au capital dans la gouvernance d'entreprise, dans les conseils d'administration, mais en fait la question s'est posée très tôt. Hein. On a des statuts d'entreprise qui ont été, dès 1917, la société anonyme de participation ouvrière qui prévoyait d'avoir des actions de capital et des actions de travail. On a eu des propositions de loi en 46, dans les années 60, et jusque des rapports jusque dans les années 70 où on a préconisé en fait le déploiement de ce qu'on peut appeler la codétermination, terme qui est une traduction littérale de Mitbestimmung en allemand, parce que ce système existe beaucoup, vous le mentionniez, ce modèle existe sous d'autres formes dans notre pays. Souvent, le modèle qui est proposé, c'est celui de l'Allemagne. Allemagne qui a développé ce modèle, non pas pour des raisons culturelles comme on le croit souvent en France, les Allemands discuteraient alors que les Français seraient systématiquement dans la confrontation, mais il a été développé et mis en œuvre par les Britanniques à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour obtenir un équilibre entre les actionnaires et le travail et les salariés, avec une représentation paritaire dans les conseils de surveillance, puisque c'est ce modèle-là, directoire conseil de surveillance, plutôt qu'on aurait en Allemagne. Ce modèle a été confirmé en 1951, en 1976. D'aucuns considèrent que c'est grâce à ce modèle-là de codétermination en Allemagne que l'Allemagne n'a pas à continuer d'investir dans son industrie, a maintenu son industrie pendant la phase de financiarisation qui va des années 70 jusqu'à nos jours. Pour ce qui est de la loi Pacte et des modifications qu'elle a introduites, elle a certes rendu obligatoire la représentation des salariés jusqu'à deux membres en fonction de la taille des entreprises, et pour des entreprises de plus de 1000 salariés employés en France ou 5000 en France et à l'étranger. On peut rajouter à cela un représentant des actionnaires salariés dès lors que le capital détenu par les salariés est supérieur à 3% du capital. Donc, ça nous fait quelque chose comme 3 membres dans des conseils d'administration qui, en moyenne, alors dans les grandes entreprises françaises, sont d'une quinzaine de personnes, ce qui est, on le comprend, qui est très minoritaire. Alors que des rapports, le rapport Gallois, le rapport Nota Sénart, qui est aussi lié aux travaux qu'a cité Emery, les travaux de Blanche Segrester, Armand Hatchuel, c'est des travaux qui ont aussi inspiré la loi Pacte. Ces rapports-là préconisaient jusqu'à un tiers. Disons au moins un tiers, trouve-t-on, mentionné dans ces rapports, un tiers de membres du conseil d'administration ou de surveillance qui soient des salariés. Et on parle d'auteurs de rapports qui eux-mêmes ont été des dirigeants d'entreprise, qui ont, comme on l'a dit précédemment, engagé des collectifs de très très grandes entreprises, puisqu'on pourrait penser que ce système-là est plus ou moins adapté selon la taille des entreprises. On parle de multinationales dans ce cas-là. Ce système de codétermination a des degrés divers et selon l'état d'entreprise, il existe dans plus de la moitié des pays européens. C'est ce qu'on sait et certains juristes comme Christophe Clair estiment que c'est en fait le modèle européen de gouvernance. C'est-à-dire, on cherche des modèles européens. On a ces derniers mois essayé de trouver un modèle européen dans différentes directions, au niveau politique, au niveau économique, au niveau de la défense. En fait, ce qu'il y aurait en commun dans les pays européens, ce serait en fait l'idée que les salariés, on puisse avoir une vision plus collaborative de l'entreprise qui serait moins conflictuelle que le schéma traditionnel capital-travail. Et ça, c'est une idée intéressante qui pourrait être remise au goût du jour parce qu'elle est très ancienne en France. Elle date des années 40 et elle a été poussée par notamment le rapport Sudreau en 1975 et les rapports que je citais beaucoup plus récents, mais qui ne sont pas, où la loi Pacte n'est pas finalement allée au bout de ce qui était préconisé dans les rapports.
Tout cela parce qu'à Besançon, 1100 employés refusant de subir les conséquences d'une mauvaise gestion de leur entreprise ont décidé d'agir. À l'entrée de l'usine occupée, une banderole sur laquelle on peut lire « On fabrique, on vend, on se paie ». C'est possible. On n'avait jamais vu ça. Ce qui n'était au début qu'un conflit social devient rapidement l'affaire LIP. Pris de court, le patronat et le gouvernement tardent à réagir.
Dans cet extrait, on parle du cas emblématique de LIP, d'autogestion. En fait, ça s'est passé dans l'année 73. Les ouvriers de LIP entament une grève en avril 73 pour protester contre la fermeture de leur usine. Refusant le dépôt de bilan, ils décident d'occuper l'usine à partir du 18 juin 1973 et se lancent dans une expérience d'autogestion. Reprise par un dirigeant en 74, liquidée en 76, et finalement reprise en 77 par ses salariés qui fondent 6 coopératives. Cet exemple, il est bien évidemment un peu extrême, c'est-à-dire là, on parle d'une organisation dans laquelle les salariés reprennent quelque part complètement le pouvoir au sein de leur entreprise. Pour conserver leur outil de travail et sauvegarder l'emploi. Peut-être une première question, Nicolas, pouvez-vous évoquer ces expériences d'autodétermination et leurs réussites ou leurs limites en France?
Alors c'est un mouvement qui est assez assez puissant et qui a le soutien d'un syndicat, la CFDT, qui a le soutien d'un parti politique, le PSU, Michel Rocard qui sera plus tard Premier ministre. Quel soutien d'intellectuels comme Pierre Rosanvallon. Le mouvement de l'autogestion, c'est l'idée, au sens premier, que on se gère soi-même. C'est les salariés qui veulent prendre le contrôle de leur entreprise. Et LIP, c'est un cas assez emblématique. Il se déroule au même moment que l'on on débat dans le comité Sudreau de la réforme de l'entreprise. Réforme de l'entreprise, qui est sur laquelle porte notre ouvrage avec Xavier Hollande. Où on commence par se poser la question de savoir ce que c'est qu'une entreprise. Et on y a répondu avec les témoignages de cet échange. C'est une communauté. Alors une communauté humaine répondent les tenants de l'autogestion à l'époque et ils nous disent que les salariés peuvent être sont les plus disons les plus légitimes à prendre le contrôle de l'entreprise. Donc ça s'inscrit aussi dans une histoire de développement aussi idéologique sur ce qu'on appelle quelquefois le contrôle ouvrier. C'est un mouvement qui a, on le comprend, perdu de sa superbe. Il a été particulièrement illustré dans les coopératives yougoslaves. C'est d'ailleurs des coopératives qui étaient des entreprises autogérées, mais dans un cadre très particulier, dans le cadre des années 70, et qui a fait l'objet de critiques assez dures du mouvement économique néolibéral dont on a cité un des tenants, je ne vais pas les reciter, dans les années 70-75, qui ont vraiment, mis l'accent sur le rôle de l'actionnaire comme étant celui qui devait prendre les décisions, enfin prendre les décisions, en tout cas être l'organe de contrôle et de détermination des objectifs de l'entreprise. Et est-ce qu'il est viable? Alors, en l'état, on n'a pas vraiment d'éléments pour étayer cette idée-là, parce que ce qui s'est passé en Yougoslavie, malheureusement, n'a pas montré une efficacité de ce système-là. Les entreprises autogérées, il en existe assez peu. Il existe une très grande coopérative, la coopérative Mondragon, qui emploie presque 100 000 salariés, qui donne à chacun de ses salariés une voix. Donc, c'est un principe coopératif de production, un homme, une voix. On a des coopératives dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, mais ce n'est pas un mouvement qui s'est généralisé. Ce n'est pas quelque chose qui s'est généralisé. Alors, il existe des débats parmi les économistes pour essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas généralisé. Les salariés auraient tendance, lorsqu'ils sont en contrôle, à s'octroyer peut-être des rémunérations supplémentaires, supérieures à la moyenne, à ne pas investir, justement, à l'inverse de ce qu'on disait juste avant. Mais il existe des modèles qui sont beaucoup plus intermédiaires. C'est-à-dire, si on prenait comment dire, une extrémité d'un spectre où on donne plus ou moins de pouvoir de l'entreprise, on aurait l'entreprise capitaliste traditionnelle où les salariés n'ont pas forcément voix au chapitre, ils ne détiennent pas de part de capital d'entreprise. Et si on avait de l'autre côté de l'entreprise coopérative, la coopérative de travail, on pourrait entre les deux, évidemment, ça nous donne énormément de possibilités. Ça nous donne des possibilités en termes de, par exemple, de participation au capital des salariés, de participation à la gouvernance des salariés avec des modèles qui sont très différents. Parmi ces modèles, l'un d'entre eux fait l'objet d'un certain nombre de réformes pour être incité. Il l'est déjà depuis les années 70 aux États-Unis, c'est le modèle des ESOP, des Employee Stock Ownership Plans, qui ont vocation historiquement à financer la reprise d'entreprise par les salariés. Le créateur des ESOP, Louis Kelso, disait le problème, alors on pourra débattre cette affirmation, il disait le problème avec le capitalisme, c'est qu'il n'y a pas assez de capitalistes. C'est-à-dire qu'il a tendance à accroître naturellement les inégalités, et les inégalités, on le sait, ont aussi des conséquences en termes de préservation du milieu naturel. Ce modèle-là, il a fait l'objet récemment d'une adaptation en Europe et d'une publication très récente en France pour expliquer un peu ses caractéristiques et comment il pourrait être déployé en France et dans d'autres pays d'Europe.
J'ai aussi choisi cet exemple de l'IP pour montrer la tension entre le pouvoir salarié et le pouvoir des investisseurs. Vous parliez des différentes entreprises sur quelque part une ligne dans laquelle on a du pouvoir plus d'un côté des salariés ou de l'autre de la part des investisseurs. Mais est-ce que d'un côté, mon impression c'est que d'un côté on cherche à préserver l'emploi ou améliorer ses conditions de travail et puis de l'autre accroître les profits, une fois de plus si je suis très caricatural. Si on donne du pouvoir aux salariés et aux investisseurs, disons avec plus d'équilibre, comment peut exister cette question du climat? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une forme de dualité où d'un côté on veut du profit, de l'autre on veut juste améliorer ses conditions de travail ou préserver l'emploi? Peut-être Nicolas réagir sur cette question et puis après je laisserai Emery aussi prolonger.
Alors c'est là que justement je trouve que le modèle des entreprises à mission est assez intéressant pour mettre finalement une sorte de ligne perpendiculaire ou de droite perpendiculaire par rapport à cette ligne qui va être celle finalement de l'opposition un peu à la Marx, hein, entre capital d'un côté, travail de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a avec ce modèle-là, le comité de mission, la possibilité d'avoir d'autres parties prenantes, dont d'ailleurs au moins un salarié, hein, c'est ce qui est la règle généralement, et avec d'autres parties prenantes qui sont intégrées et qui vont avoir sans doute un rôle d'arbitrage. J'ai bien apprécié le fait que Emery dise que le comité de mission met l'entreprise sous tension. Il met en fait les objectifs en tension. On voit qu'il y a cette, évidemment, une tension un peu naturelle, historique, très souvent commentée entre les salariés. On le voit au travers des mouvements sociaux, les salariés, les actionnaires, le partage de la valeur. Quelquefois, le partage de la valeur, on ne mentionne pas lorsqu'on parle de partage de la valeur. La planète, on ne mentionne pas les collectivités, on mentionne souvent le travail et le capital. Et le modèle, la possibilité d'avoir une mission et un comité de mission permet finalement, en tout cas, une discussion sur un équilibre, un meilleur équilibre entre capital, travail et des objectifs qui soient aussi extra-financiers.
Je pense effectivement qu'on ne peut plus opposer dans l'entreprise, les actionnaires, les salariés. L'entreprise, c'est un projet collectif, Nicolas l'a répété plusieurs fois, et il n'y a pas une entreprise qui sera performante, et quand je parle de performance, je parle bien d'une triple performance économique, sociale, environnementale, sans des collaborateurs engagés qui se sentent bien dans l'entreprise, qui vont générer des clients qui vont se sentir bien, il y a la symétrie des attentions, on parle de ça souvent, et qui vont rendre des actionnaires heureux. Donc, quelque part, c'est la roue du bonheur. C'est ce que me disait ce matin une société à mission que je visitais, on va pas les citer, Châteauforme, une toute jeune société à mission, mais qui existe depuis longtemps. Et son dirigeant me disait, bon, j'ai inventé la roue du bonheur il y a 20 ans. Parce que oui, pas de collaborateurs, il n'y aura pas d'actionnaires heureux sans des collaborateurs heureux. Et donc l'opposition, qui est un peu 20e siècle, si je peux dire ça comme ça, entre actionnaires et salariés, elle a sauté aujourd'hui en fait. Et je pense que l'enjeu, c'est de se poser la question pourquoi on a envie de travailler ensemble, en quoi on est une ressource, mais en quoi on est récompensé aussi de en tant que partie prenante de l'entreprise pour l'apport que chacun apporte au projet d'entreprise. Et effectivement, le modèle d'entreprise à mission, et c'est vraiment une innovation dans le droit français qui n'existe pas ailleurs. Hein, en Italie, avec la Società Benefit, on n'a pas ça. Avec le comité de mission, on a le premier organe de gouvernance qui représente l'entreprise, donc l'intérêt de l'entreprise. Et l'intérêt de l'entreprise, il ne peut plus aujourd'hui être déconnecté non plus de l'intérêt de la planète, parce que tout est interdépendant. On n'aura jamais d'entreprise, on n'aura pas d'entreprise en bonne santé si on n'a pas une planète en bonne santé. Et donc, l'entreprise doit prendre soin de son écosystème, de ses parties prenantes, elle doit prendre soin de la planète, parce que sinon, une planète qui va mal, bah, en fait, c'est tout qui part en vrille. Hein, si le climat est à plus 5 degrés, je doute assez fortement de notre capacité de maintenir des démocraties, de maintenir des entreprises et de maintenir des territoires en bonne santé. Donc, tout est lié, on a un enjeu commun, on a même aujourd'hui, au-delà, on parle beaucoup de bien commun, je dirais qu'aujourd'hui, on a un péril commun. Et ce péril commun va faire en sorte qu'on va bouger, et on va bouger probablement beaucoup plus vite qu'on ne le pense, parce qu'on n'aura juste pas d'autre choix. C'est le fameux sujet de la sobriété qui s'est imposé à nous là, à la rentrée dernière. Bah, c'est sobriété imposée ou sobriété choisie. Donc, on voit bien qu'on va devoir bouger. Et tout ça va faire bouger les lignes très, très vite. J'en suis assez convaincu.
Emery, vous qui observez les entreprises à mission à travers votre fonction de président de la communauté des entreprises à mission, est-ce que certaines entreprises à mission intègrent des fournisseurs, des clients dans leur comité mission, et est-ce que aussi certains comités à mission sont composés d'autres acteurs de la transition écologique, des ONG, peut-être des activistes même, bref, des représentants aussi du vivant, mais qui ont forcément une autre position?
Oui, absolument. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, dans la loi Pacte, une société à mission doit avoir un comité de mission, sauf les PME qui ont moins de 50 personnes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que 80% des PME qui ont moins de 50 personnes, elles ont quand même mis en place un comité de mission. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité de faire rentrer dans la gouvernance de l'entreprise les parties prenantes, mais aussi des parties pas directement prenantes, mais indirectement, des associations, des gens qui sont des experts des sujets sur lesquels l'entreprise s'engage. Pour Camif, par exemple, nous, on a autour de notre comité de mission la secrétaire générale de l'ameublement français. Elle a tous les enjeux de la filière des fabricants d'ameublement français et elle apporte ça. Elle se nourrit de ce qu'on fait, mais aussi inversement, elle nous apporte une vision. On a un expert de l'économie circulaire, parce qu'un de nos engagements de mission, un de nos objectifs de mission. Donc, c'est effectivement très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même les PME, souvent, n'ont pas de conseil d'administration. Et donc, ça devient leur premier organe de gouvernance. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que là, on a un organe de gouvernance qui est beaucoup plus riche qu'un conseil d'administration qui est composé d'administrateurs, principalement représentants des actionnaires.
Nicolas, à l'image de ce que vient de proposer Emery, au-delà des entreprises à mission, est-ce qu'on pourrait imaginer des conseils d'administration dans lesquels, au-delà des investisseurs et des salariés, on retrouve d'autres parties prenantes ? Ou est-ce qu'on pourrait imaginer des conseils d'administration dans lesquels, justement, il y a des règles de répartition du pouvoir qui permettent de s'attaquer aux besoins de faire pivoter l'entreprise, ses activités pour faire face au dérèglement climatique?
Disons que si on se réfère à la littérature qui existe sur le sujet, c'est évidemment tout à fait envisageable. Le cas qui était mentionné de PME où il n'y a finalement qu'un comité de mission, c'est très intéressant. Dans la littérature, on trouve des approches dites cognitives de la gouvernance où finalement le conseil d'administration serait un assemblage de connaissances. De connaissances et de perception du monde différente qui illustrait bien l'exemple que donnait Emery, c'est-à-dire dans le cas d'une entreprise où on a besoin d'avoir les acteurs du secteur, où on a besoin d'avoir les acteurs qui sont des ONG, qui sont impliqués dans la défense des enjeux climatiques, dans la transition climatique, pour justement bénéficier d'un apport de connaissances. Et d'ailleurs, dans une autre logique, les acteurs financiers ne s'en sont jamais privés. Des entreprises du secteur, des fonds d'investissement dans le private equity vont dans le domaine du secteur pharma vont embaucher des médecins, vont embaucher des chercheurs dans un domaine particulier, justement pour bénéficier de leur connaissance du secteur, de leur connaissance des avancées scientifiques. Donc, pourquoi ne pas l'envisager pour les entreprises dans la mesure où on considère que la transition climatique est un enjeu prioritaire?
Je dirais d'ailleurs que l'initiative récente qu'on a évoquée sur la Maïf avec le dividende écologique ou avec Crédit Mutuel et son dividende sociétal est extrêmement intéressant, de reconnaître finalement que la planète est une partie prenante de l'entreprise, elle est actionnaire même de l'entreprise, voilà, et qu'on lui reverse une partie des dividendes de l'entreprise, c'est un concept qui est très puissant. Et si on tire le fil de ça, qui devrait du coup avoir une représentativité dans la gouvernance de l'entreprise au conseil d'administration.
On arrive à la fin de notre conversation. J'ai une dernière question pour chacun d'entre vous et je vous propose de me faire une réponse courte et synthétique. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer l'entreprise face au dérèglement climatique, vous feriez quoi?
Alors, si j'avais une baguette magique, j'aurais, parce que c'est plutôt un sujet sur lequel je suis impliqué ces derniers temps, je permettrais de favoriser la reprise d'entreprise par les salariés. Considérant qu'ils sont des actionnaires qui sont impliqués sur le long terme et que le temps, c'est ce dont a besoin l'entreprise. Alors évidemment, si on la baguette magique, ça amènerait à même aller au-delà, c'est-à-dire juste donner plus de temps aux entreprises pour décider. On voit en fait que les horizons d'investissement dont on a besoin, le paradoxe qu'illustrait Emery, c'est-à-dire qu'on a peu de temps pour prendre les décisions, mais il faut en même temps que des investissements soient réalisés, des investissements massifs qui reprennent des sommes considérables et qui nécessitent aux entreprises de pouvoir se projeter sur le temps long.
Et vous, Emery, que feriez-vous avec cette baguette magique?
Je donnerais tout de suite un cadre mondial à l'entreprise engagée. Je ferais la « mission-driven company ». Et pour qu'on reconnaisse ces entreprises qui investissent sur le temps long, qui investissent sur les enjeux du bien commun par rapport à celles qui ne le font pas, et que du coup les talents, les consommateurs, les citoyens préfèrent ces entreprises et accélèrent finalement la mutation de l'économie au profit d'entreprises qui construisent le monde d'après, qui construisent le monde de demain. Donc voilà, et en fait je crois qu'il s'agit finalement d'atteindre, puisqu'on parle de comment on fait basculer les entreprises, il y a un point de bascule, je crois qu'il y a une théorie sur le point de bascule, hein, c'est aux alentours de 10% d'une population. Quand il y a 10% des entreprises qui auront basculé, alors ça va emporter les 90% restants. Donc voilà, s'il y avait une petite baguette magique, je dirais allez, on fait 10% du chemin et après ça viendra tout seul.
Eh bien, un grand merci. C'est la fin de cet entretien, maintenant ou maintenant. Merci Emery, merci Nicolas pour cet échange riche. Et puis, merci à nos auditeurs. Si cela vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant ou maintenant@gmail.com. La fin de cet entretien, c'est maintenant.